Afrique, les infos à Washington.
Avec vous en ligne, Francisque, 13h à Bamako, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Conflit au Cameroun, au moins 25 combattants séparatistes ont été tués dans des combats avec les forces gouvernementales mardi dans la région anglophone du Nord-Ouest. C'est ce qu'ont annoncé ce mercredi à l'AFP plusieurs sources sécuritaires. L'une d'entre elles fait état de 3 accrochages hier à Mbot, localité proche de la ville de Nkambé. Il n'y aurait pas de pertes côté gouvernemental. Rappelons que dans les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, une crise sociopolitique sans précédent s'est installée fin 2016 et elle s'est transformée en conflit armé fin 2017. Des combats ont lieu quasi quotidiennement dans la forêt équatoriale depuis plusieurs mois dans les 2 régions en question. Un conflit qui a déjà forcé plus de 437 000 personnes à fuir leur domicile, selon des chiffres de l'ONU publiés début octobre. De leur côté, les ONG estiment que plus de 200 membres des forces de sécurité et de défense camerounaises ainsi que plus de 500 civils ont perdu la vie depuis le début des violences. Au Tchad, des combats opposent l'armée tchadienne à un comité dit d'autodéfense des habitants du massif du Tibesti dans le nord du pays, région théâtre d'affrontements de plus en plus fréquents depuis la fin août. Nani Talani.
L'armée tchadienne a bombardé hier et lundi la zone aurifère de Miski dans le nord du pays, selon une source militaire tchadienne. Les affrontements se déroulent à l'intérieur et à l'entrée de Miski, où les militaires s'affrontent à un comité d'autodéfense créé début novembre par des habitants de la région excédés par les exactions de l'armée. 2 hélicoptères et 2 avions de combat ont été déployés dans la zone. Aucun bilan n'a été communiqué de sources officielles, mais il y aurait plusieurs morts dans les 2 camps. Le comité d'autodéfense proteste contre l'opération punitive de l'armée tchadienne dans la zone, selon M. Mouli Sougui, ex-sous-préfet de Yébibou. Il soutient que le comité n'exclut pas la possibilité d'une alliance avec des rebelles tchadiens passés en Libye qui ont progressé dans le nord depuis août. Ni le gouvernement ni l'armée ne se sont exprimés officiellement sur ces affrontements dans le Tibesti. Le président Idriss Déby Itno a annulé un voyage en Italie où il devait participer à une rencontre sur la crise libyenne.
Au Gabon, l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis près de 3 semaines à Riyad en Arabie Saoudite, est au centre de toutes les conversations. Dimanche, le porte-parole de la présidence gabonaise a dit, et je cite, que le président Bongo était en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Fin de citation. Quelques réactions de citoyens gabonais recueillis à Libreville, la capitale.
Je reste sceptique à ce niveau, je reste sceptique, mais confiant, parce que je ne suis pas pour la mort du président de la République. Je suis bien pour que, effectivement, il puisse se rétablir, puisqu'on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais en tant que Gabonais, en tant que leader d'opinion, j'ai des interrogations.
Maintenant, Gabonais, nous voulons savoir, c'est une personne comme nous. On n'a pas dit que c'est un robot ou un super homme, mais on doit quand même savoir l'état de santé, parce que nous sommes dans l'hypothèse. On nous dit, mais nous n'avons pas de preuves. Qu'est-ce qui se passe dans ce voyage? Qu'est-ce qu'on craint?
Mon point de vue, c'est les spéculations qu'on nous donne. Donc, ces spéculations, je ne me fie pas à ça. Je veux me fier au jour où on me dit, bon, voilà, il y a un porte-parole qui est arrivé. La première fois, il est arrivé, il nous a dit, voilà, ça va. Et après, on a vu un peu la santé de feu Omar Bongo Ondimba. C'était une tuile où on nous a caché. Après, on a découvert qu'il était mort. Donc, pourquoi on ne nous cache? Qu'on nous dise exactement que ça, la santé s'est améliorée ou ça ne s'est pas amélioré. Il y a un gouvernement et il y a la communication, qu'on communique.
Des réactions de citoyens gabonais face aux problèmes de santé du président Ali Bongo Ondimba. Politique en République démocratique du Congo maintenant, les opposants congolais ont continué ce mercredi à étaler leur division. Après l'accord mort-né sur un candidat unique signé à Genève sous les auspices de la fondation Kofi Annan, laquelle vient de publier la lettre d'engagement de 2 ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. À la surprise générale, l'outsider Martin Fayoulou avait été désigné candidat unique de l'opposition après un vote à 7 pour l'élection présidentielle à un tour prévue le 23 décembre dans le pays. Un engagement dénoncé dès lundi par messieurs Tshisekedi et Kamerhe. Résultat, la fondation Kofi Annan, médiatrice dans la rencontre de Genève, a publié la lettre d'engagement signée par les 7 signataires, dont les 2 qui ont fait volte-face. « Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Lit-on dans les deux lettres signées par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Élection à Madagascar, le candidat à la présidentielle malgache André Rajoel, en tête de la course selon les résultats partiels du scrutin du 7 novembre, a dénoncé aujourd'hui le manque de transparence de la commission électorale qui compile les résultats et qui a déjà été vivement critiqué par deux autres candidats. Selon les tout derniers résultats partiels publiés par la commission électorale ce mercredi, André Rajoel, le chef de l'État de 2009 à 2014, est en tête avec 39,46% des voix devant Marc Ravalomanane, 36,76%, et Irrajonar Mampian, 7,49%. Ces résultats portent sur 68,71% des bureaux de vote déjà dépouillés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous passons maintenant à la lutte contre les djihadistes au Sahel. Au Nigeria, au moins 16 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont portées disparues à la suite d'une série d'attaques perpétrées dans le nord-est du pays par des membres présumés de Boko Haram. Le gouvernement et l'armée nigériane affirment que les militants du groupe djihadiste sont pratiquement éradiqués, mais Boko Haram contrôle encore une grande partie du territoire sur les pourtours du lac Tchad et mène de nombreuses attaques, notamment contre des cibles militaires, des attaques qui font des dizaines de victimes. Le conflit a déjà causé la mort de plus de 27 000 personnes depuis 2009 et près de 2 millions de résidents ont été déplacés dans la région du lac Tchad. Et toujours au Nigeria, du nouveau dans la lutte contre la corruption, un centre visant à assurer la protection des témoins ainsi que la justice aux victimes de la corruption sera bientôt établi dans le pays. Ce centre œuvre de la société civile sera chargé de recenser les victimes de la corruption. Reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Le centre servira d'intermédiaire entre les Nigériens vivant en zone rurale ou même ceux qui vivent dans la capitale mais qui ne savent pas revendiquer leurs droits et les institutions de lutte contre la corruption au Nigeria. Tous les cas de corruption seront désormais reçus et enregistrés par ce centre pour des enquêtes et se chargera d'assurer la défense des personnes victimes de corruption. Awal Moussa Ibrahim Rafsanjani du CISLAC, centre de défense des droits humains, en est l'initiateur.
Si ce centre n'existait pas, beaucoup de Nigériens qui n'ont pas d'argent pour aller à la justice, beaucoup de Nigériens qui n'ont pas les moyens d'aller voir IFCC ou ICPC ou encore ceux qui ne savent tout simplement pas comment le faire, ils continueraient à être des victimes de la corruption ou des abus des droits humains. C'est pourquoi ce centre est pour les gens ordinaires qui ne peuvent pas défendre leurs droits ou qui sont victimes de corruption.
Il existe plusieurs agences gouvernementales de lutte contre la corruption au Nigeria, mais ces institutions ont encore du mal à lutter efficacement ou mettre fin à ces fléaux qui atteignent des proportions inquiétantes dans ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest. Elles sont souvent accusées d'être sélectives dans certains cas de corruption contre les cadres ou les individus inculpés, comme le pense Kola Wole, un activiste qui combat la corruption.
Tout d'abord, c'est un problème d'institutions. Nos institutions sont généralement faibles. Elles sont influencées par des poids lourds et donc si les intérêts dominent, vous ne pouvez pas combattre la corruption. Si vous avez un homme fort mais qui est entouré d'autres hommes et que vous avez parmi eux des corrompus qui peuvent influencer l'homme fort, c'est le cas par exemple des institutions qui doivent enquêter, arrêter, juger et inculper.
Cette nouvelle structure se veut plus dynamique mais va surtout défendre les sans-voix. Elle a déjà signé des accords de collaboration avec les autres agences en place. La police est un partenaire privilégié de ces centres. Abayomi Chokunle, commissaire assistant de la police nationale en charge de l'unité de lutte contre la corruption.
Je pense que le problème de la corruption au Nigeria, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper tous, pas seulement le gouvernement. Tout le monde est concerné par ce problème de corruption au Nigeria, parce que selon les informations que nous recevons, il y a de la corruption à tous les niveaux, en bas comme en haut.
At the lowest level as well as at the highest level.
4 années après son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a en effet connu très peu de succès dans sa lutte contre la corruption. Les milliards détournés n'ont pas été récupérés. Plus grave, les enquêtes piétinent aussi. Selon IFCC, la commission de lutte contre les délits financiers, plus de 700 dossiers de corruption se trouvent présentement devant la justice nigériane. Gilbert Tamba, Bujaveo, Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. www.radiofrancisque.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.